L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fisch. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage!
Nous allons nous réchauffer en dansant le Charleston. L'Odyssée du rythme vous emmène dans l'histoire du Charleston. Principale ville du Sud, Charleston était un foyer de culture, en particulier en ce qui concerne la musique. Considéré par certains historiens comme le centre musical de toute la côte Est pendant la première moitié du XVIIIe siècle, c'était le port d'arrivée de la plupart des musiciens professionnels venus d'Europe pour jouer ou enseigner leur art dans le Nouveau Monde. C'est de 1735 que date la première représentation d'un opéra en Amérique, Flora or Odd in the Well, qui était un opéra ballade en un acte et qui avait connu un grand succès à Londres. C'est encore à Charleston que fut créée en 1762 la première société uniquement consacrée à la musique, la Sainte Cecilia Society. D'ailleurs, les premiers concerts en l'honneur de Sainte Cécile, patronne de la musique, datent de 1735. Comme Charleston était un centre urbain, les privilégiés pouvaient y vivre comme leurs pareils des villes du Nord et des capitales européennes et assister aux concerts, pièces de théâtre, bals, assemblées et autres distractions intellectuelles. Les écoles de chant et de danse étaient fréquentées par les hommes aussi bien que par les femmes. Tous les jeunes gens de la bonne société se devaient de connaître la danse, la boxe, de jouer du violon et de jouer aux cartes. À Charleston, du fait de l'énorme demande de main-d'œuvre, qualifiée ou non, les esclaves pouvaient cultiver leurs dons et leurs talents beaucoup mieux que dans toutes les autres villes des colonies. On trouvait des hommes de couleur dans tous les métiers de l'artisanat et des arts. Ils faisaient une concurrence sérieuse aux travailleurs blancs et s'étaient même taillés un fief dans certains domaines, à tel point qu'en 1744, des artisans blancs adressèrent une pétition à l'assemblée locale pour être débarrassés de ces concurrents qui les ruinaient. Malgré les limites imposées dans le Sud par les structures sociales, les esclaves parvenaient à développer leurs dons. Ceux qui avaient la chance d'appartenir à de grandes plantations ou à de riches citadins vivaient dans un milieu d'un niveau d'activité culturelle plus élevé. Le journal et la correspondance de Fissian fournissent d'utiles données sur la vie dans le Sud. Ce jeune diplômé de Princeton, qui passa 2 ans, de 1773 à 1775, en qualité de précepteur des enfants d'un aristocrate nommé Robert Carter, donne un aperçu très vivant du mode de vie des riches et des serviteurs sous contrat, blancs et noirs. Son employeur avait sur sa plantation de Nominee Hall une grande quantité d'instruments de musique, clavecin, pianoforte, harmonica, guitare, violon et flûte allemande. Et à Williamsburg, dans sa maison de ville, un orgue. Presque tous les soirs chez les Carter, les membres de la famille faisaient de la musique de chambre. Les esclaves qui avaient toute liberté dans la maison et au sein de la famille écoutaient la musique en même temps que leur maître et, probablement, essayaient de jouer des morceaux sur les instruments de musique dès qu'ils en avaient l'occasion. Des professeurs itinérants allaient de plantation en plantation, enseignaient la musique aux filles et aux fils des riches planteurs, restant plusieurs jours chaque fois selon le nombre de ceux à qui ils donnaient leurs leçons. Monsieur Stadley, le professeur allemand des enfants Carter, restait en général 3 ou 4 jours à chacun de ses passages à Nominee. Surtout pour enseigner aux jeunes femmes l'art du violon et du pianoforte. Grâce à ces brefs séjours, on jouait le soir. Une musique de chambre et des chants plus difficiles auxquels la présence d'un professionnel apportait indiscutablement un attrait supplémentaire. Inévitablement, les esclaves doués pour la musique profitaient des passages des professeurs de musique dans les plantations. Les domestiques avaient probablement l'occasion d'écouter les conseils des professeurs et d'observer la façon dont on pouvait exécuter certains passages. Souvent, dans les familles possédant des esclaves, les jeunes leur apprenaient à jouer du violon ou de la flûte. Fissian, par exemple, signale à maintes reprises les relations étroites qui unissaient plusieurs Noirs à Ben et Harry, les fils Carter. Plus d'une fois, les jeunes Carter avaient été chassés de la salle de classe où ils dansaient avec des esclaves au son du violon. Enfin, dans certains cas, les propriétaires faisaient donner des leçons à leurs esclaves, ce qui leur donna des connaissances musicales suffisantes pour pouvoir jouer au bal des plantations ou lorsque l'on recevait des visites.
Lady baby has got me a world. Her kind of love is all mercy, made me a slave. Sweet little government is all I crave. Sweetest miss with a kiss full of bliss can't resist. Oh, my. Tells me lies, all them eyes. Oh, it's a wow. Baby, a hat ball. My new baby, send me, baby, that's all, yes. Yeah!
Traversée du rythme, c'est une traversée à travers le temps. C'est une histoire vraie.
Ah, ça a l'air bien, mais c'est quoi ?
L'Odyssée du rythme, c'est l'histoire de la musique populaire américaine.
Quand ils allaient au collège de William & Mary à Williamsburg, fondé en 1693, les étudiants emmenaient leurs esclaves. Certains contemporains regrettaient qu'il n'y eut pas pour les Noirs de logements séparés, analogues à l'appartement réservé aux Indiens. Il y a tout lieu de prévoir un logement pour les Noirs et les serviteurs inférieurs appartenant au collège, écrit Hugh Jones en 1724. En revanche, cette situation profitait aux esclaves. Ils vivaient dans les appartements de leurs jeunes maîtres et il n'est pas douteux que, dans bien des cas, ils suivaient les cours avec eux. Il est plus que probable que maints esclaves au collège apprirent à jouer ainsi très bien du violon ou à jouer extrêmement bien du cors d'harmonie en suivant les cours de musique du collège, donnés par des maîtres de la ville plutôt que par des professeurs appartenant à la faculté. On employait souvent des esclaves comme violonistes pour danser chez soi et pour les cours de danse. Par exemple, à Nomini Hall, il n'était pas rare que John, le maître d'hôtel, joue et que les jeunes dames passent les soirées à danser gaiement. De même que des professeurs de musique itinérants, il y avait, pour les jeunes gens du Sud, des professeurs de danse qui donnaient leurs cours tour à tour dans chacune des plantations de leurs élèves, plusieurs jours de suite à chaque endroit. Les élèves les suivaient d'une plantation à l'autre, restant à titre d'invités sous le toit où il y avait cours. Thank you.
connaître les musiques diffusées,
allez sur le Facebook de l'Odyssée du rythme.
Deux fois par an, à Noël et à Pâques, on accordait aux esclaves plusieurs jours de congé pour célébrer leur jubilé. Noël était la plus joyeuse fête de l'année. Ficiane écrit à propos d'une veillée de Noël « On tire le canon ce soir dans le voisinage et les Noirs semblent possédés d'une vie nouvelle. » Les jours d'après Noël se passaient en réjouissance et en danse au son du violon ou du banjo, le plus souvent du violon. Le dimanche de Pâques, les gens mettaient leurs plus beaux vêtements pour aller à l'église. Toute la paroisse semblait s'être donné rendez-vous. Puissants ou humbles, blancs ou noirs, tous étaient sortis. Les colons, bien entendu, savaient qu'on dansait beaucoup au son des violons, fabriqués pour la plupart sur place. Au Maryland, l'anglais Creswell remarque que les esclaves jouaient d'un instrument à cordes particulier et le décrit en ces termes. Cet instrument, si tant est-il qu'il mérite ce nom, est fait d'une gourde un peu à l'imitation d'une guitare avec quatre cordes seulement et se joue avec les doigts de la même façon. Creswell note plus loin que la musique du banjo était accompagnée de chants d'une musique vraiment cocasse, les esclaves chantant à propos de leur maître et maîtresse d'une façon très satirique. Au moment de l'indépendance américaine, les Noirs faisaient partie intégrante de la société coloniale. Représentant plus de 20% de la population, ils accomplissaient la plupart des gros travaux à la ville comme dans les plantations. En ce qui concerne la musique, ils participaient aux activités des colonies dans toute la mesure où on le leur permettait. À l'église, ils chantaient les hymnes et les psaumes en même temps que les fidèles blancs. Certains de ces derniers étaient frappés par la beauté des chants des esclaves. Ainsi, Samuel Davis, qui écrit « Je ne sais comment exprimer le plaisir que j'éprouve à me tourner vers la partie de la galerie où ils, les esclaves, se trouvent, et à les voir si nombreux avec leurs livres de psaumes et d'hymnes, qu'ils ouvrent à la page qu'on chante en aidant leurs semblables novices à trouver le bon endroit. Puis éclatent tous ensemble en un torrent d'harmonie sacrée, suffisant pour emporter toute l'assemblée jusqu'au ciel. »
Thank you.
pour nous écrire odyssee.du.rythme@gmail.com.
First you bring me joy, then bring me sorrow. Why you're just here today and gone tomorrow. Why can I have you for my own? Tell me why must I stay here all alone? I want to go where you go, do what you do. So when you love, then I'll be happy. I want to sigh when you sigh, cry you will cry. Smile when you smile, then I'll be happy. If you go north or south, if you go east or west, I'll follow you round, sweetheart, hear your little old man. I want to go where you go, do what you do. Love when you love, then I'll be happy.
C'est en 1923 que James Pride Johnson compose Charleston de la revue entièrement noire se jouant sur Broadway, Running Wild. Elle fut pratiquée dans le monde entier et contribua à la diffusion du jazz. Son rythme fortement syncopé convenant particulièrement aux orchestres Dixieland qui fut l'un des morceaux de jazz le plus repris dans les années 1920. Ce titre est à l'origine de la fameuse danse Charleston et qui doit son nom à la ville de Charleston en Caroline du Sud. Le Charleston devient alors, dans les années 1920, la danse de société de référence aux États-Unis. En France, il faudra attendre 1925 avec la première revue nègre au Théâtre des Champs-Élysées de Paris, dans laquelle on retrouve Sidney Bechet et Joséphine Baker pour faire ses débuts. Le Charleston eut une grande vogue en France de 1925 à 1927, allant en décroissant en 1928. Le Charleston se danse en solo, en duo ou en groupe sur les rythmes endiablés du jazz hot. Le Black Bottom est une variante de cette danse possédant la même rythmique binaire et syncopée que le Charleston. Un des pas favoris de cette danse consiste à faire des pas sautillés en avant et en arrière. Le Charleston est en particulier le Collegiate Charleston et le précurseur direct de l'Indy Hop et du Jazz Roots, danse des années swing née à Harlem dans les années 1930, dansée respectivement en couple ou en solo. Aujourd'hui, les danseurs de hip-hop ou de deep house reprennent bon nombre de pas de cette danse.
Do 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 when you sigh, cry when you cry, smile when you smile, and I'll be happy. If you go north, south, if you go east, or west, I'll follow your arms, sweetheart. Hey, oh, dear love man, I want to go where you go, do what you do. Love when you love, and I'll be happy.
Thank you.
Ainsi se termine notre voyage dans l'Odyssée du rythme. Encore merci à Nicolas Fisch pour la réalisation technique de cette émission. Pour retrouver l'ensemble des titres que nous venons d'écouter, allez sur la page Facebook de l'émission L'Odyssée du rythme. Et pour nous réécouter sur odysseeduritme.com. À toutes et à tous, à très bientôt.